Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ora nui, et bienvenue dans cette 12e émission.
Édition 2023.
Avant de commencer, je réponds aux questions des personnes m'ayant interrogé sur les chansons entendues dans mes émissions. Dans la rubrique audio de mon site eo.com, vous pouvez réécouter les chansons de Moetai et de Kanahau Trio, avec leur traduction en français. Pour obtenir les paroles des autres musiciens, il vous faudra chercher sur internet ou sur la pochette de leur CD. On m'a aussi appelé pour me dire que l'histoire que je racontais n'était pas toujours conforme à celle entendue au sein des familles. Il est naturel que les histoires transmises oralement ne coïncident pas toujours avec l'histoire racontée dans les livres, l'histoire avec un grand H. Moi, je ne suis pas marquisien, et même si ma connaissance de la langue me permet désormais de recevoir de précieuses informations au travers des conversations que je peux tenir avec telle ou telle personne de renom, je n'ai pas la chance d'avoir des parents ou des grands-parents marquisiens pour me parler de leurs aïeux et me transmettre ce qu'ils en ont appris. Ne pouvant disposer de cette richesse héréditaire, afin de mieux comprendre les îles Marquises et les Marquisiens d'aujourd'hui, c'est donc dans les livres d'histoire que j'ai dû me plonger, tout en maintenant un contact régulier avec certains anciens toujours en vie et qui me font l'amitié de partager avec moi ce que peu de personnes leur demandent. Enfin, avant d'attaquer les 6 émissions à venir, je veux remercier mon ami Chantal, qui m'a aidé à mettre mes idées en place et à trouver le moyen le plus clair de partager avec vous ce qui est ou ce qui fut l'âme profonde de la culture ancestrale marquisienne. Kouta Unuya Oe Chantal. Avec le départ de Krug de Taiohae et l'année 1799, le 18e siècle s'est achevé sur les îles Marquises et le reste du monde. Avant d'aborder les années 1800, comme annoncé il y a quelque temps, dans cette émission et les 5 suivantes, nous allons faire une pause historique et nous pencher sur des aspects plus socioculturels de l'ancienne culture Enana Enata. Je rappelle aux auditeurs que ce sont mes lectures qui m'ont éclairé sur tout ce dont nous allons parler maintenant. Ce que je vous propose, c'est une synthèse inspirée par des centaines d'heures et des centaines de pages de lectures attentives, motivées par le désir et le besoin profond de mieux connaître et comprendre ce pays où j'ai choisi de vivre
depuis 1995.
Je vais d'abord vous donner la liste des livres et de leurs auteurs, cités en référence afin de ne plus avoir à le faire ensuite. Vous pouvez aussi retrouver ces ouvrages dans la rubrique « Bibliographie » de mon site teo.com. Chronologiquement, c'est le pasteur William Pascoe Crook qui vient en premier avec son « Récit aux îles Marquises ». Ensuite, c'est Nukuhiva 1813-1814 du Commodore David Porter. Ces deux ouvrages ayant été publiés par les éditions Haerepo de Tahiti, on peut facilement les trouver sur le territoire. C'est aussi aux éditions Haerepo
qu'en septembre 2018 a été publié le journal marquisien d'Edward Roberts,
édité par Greg Denning en anglais en 1974 et que j'ai la grande fierté d'avoir traduit en français en 2016. Ces trois ouvrages, le journal de Crook, le journal de Porter et le journal de Roberts, constituent une trilogie exceptionnelle qui nous fournit une multitude de détails précieux sur les coutumes marquisiennes à l'époque des premiers contacts. Puis vient le livre de Max Radiguet, Les Derniers Sauvages, et celui de William Leblanc, Souvenir d'un vieux Normand, les deux se déroulant à l'époque de la prise de possession par la France en 1842. Je m'inspire aussi des Souvenirs des îles Marquises 1887-1888 du dernier vice-résident du groupe Sud, Albert Testard de Marance. En 1927, le père Siméon Delmas publiait La religion ou le paganisme des Marquisiens, un ouvrage de fond épuisé depuis des années, dans lequel le missionnaire essaie de comprendre la religion ancienne. Il est décédé et enterré à Taiohae en 1939, après 40 années de sacerdoce aux Marquises. Ensuite, on trouve « Mœurs et coutumes des anciens Maoris des îles Marquises » du docteur Louis Rollin. Et enfin, on termine cette liste par des ouvrages plus récents, dont le plus dense est Marquise 1774-1880, Réflexion sur une terre muette de Greg Denning. Et il y a aussi Vie quotidienne aux îles Marquises 1797-1842 de Dominique Pecheberti et pour finir, Les colons des îles Marquises de Benoît Falchetto.
Enfin, et pour ceux d'entre vous qui voudraient se plonger dans un ouvrage plus académique et plus didactique, celui qu'il vous faut vous procurer s'intitule « Les îles Marquises, histoire de la terre des hommes du XVIIIe siècle à nos jours » de Michel Bailleul, publié au Cahier du patrimoine en 2001 à Tahiti.
Lors de nos dernières émissions, il a très souvent été fait allusion au chef, au Hakaiki Marquisia. Au cours des 18 mois que le pasteur Crook a passé dans l'archipel, il a vécu dans l'entourage de deux grands Hakaiki de l'époque, Tainai, chef des Hema de Waitahu à Tahuata, et Kiatonui, chef des Teii de Taiohae à Nukuhiva. Le moment est venu pour nous de nous pencher sur la fonction de chef et de voir comment son hérédité lui confère le pouvoir mana de gérer le tapu, la loi traditionnelle. Nous verrons aussi que c'est autour du tapu, émanation du chef, que s'organise la vie communautaire dans la distribution des couches sociales, dans l'organisation des fêtes koika et dans la gestion de la religion ancienne. Posons-nous d'abord la question, qui peut être Hakaiki? En 1842, Max Radiguet est secrétaire de l'amiral du Petit Ouar. Voilà ce qu'il écrit à la page 127 de son livre journal « Les derniers sauvages ». On est Hakaiki par droit de naissance. On le devient en s'illustrant à la guerre ou en s'alliant à une femme de haut rang, Haatepeiu, ou en étant adopté par un chef. Quel est l'aspect social du Hakaiki? Quel est son rôle social? Toujours en 1842, un jeune marin français, William Leblanc, se fixe dans la vallée Hikoei à Taiohae, où il s'installe avec la fille du chef Veahitu. Longtemps après, il publiera ses souvenirs dans « Mémoire d'un vieux normand », ouvrage controversé d'ailleurs par les spécialistes dont le professeur Sox, pour son manque de sérieux ou de fiabilité. Néanmoins, voici ce que William Leblanc dit à propos du chef à la page 141 de ses mémoires. Il possède le monopole de l'arbre à pain et des porcs. Les gens du peuple et les autres chefs qui lui sont inféodés ne se prosternent pas devant lui, mais se présentent à lui torse nu. C'est juste un détail intéressant de la vie d'autrefois. Dans Marquise 1774-1880, Réflexion sur une terre muette, le professeur Greg Denning expose sa vision de la société marquisienne ancienne. Voici ce qu'il dit du rôle du Hakaiki aux pages 94 et suivantes. Chez les Enata, il n'y avait ni souveraineté, ni subordination, mais uniquement un esprit d'indépendance effréné, accompagné d'une conscience inhabituelle de leur propre importance. Cela signifie que les Enata se sentaient fiers de leur culture et qu'ils ne ressentaient aucun sentiment d'infériorité face aux étrangers. Ils les plaignaient au contraire, croyant que s'ils faisaient un si long voyage pour trouver de l'eau et de la nourriture, c'est que leur pays était bien pauvre. Un proverbe marquisien dit « Eti ohi teme ama etetahitu ? Est-ce que la lune regarde les étoiles ?» Les marquisiens anciens se sentaient comme la lune et ne regardaient pas ceux qui venaient de l'extérieur. Greg Denning continue. Les Hakaiki ne pouvaient exiger ni impôts, ni services personnels. Ils n'étaient l'objet d'aucun rituel particulier de déférence. Ce n'était pas l'autorité qui les constituait chefs, mais leur influence. Chez les Enata, le pouvoir social reposait sur l'homme ou la femme en qui les lignages généalogiques les plus importants se rejoignaient. Et on a bien vu que pour Kiatonui c'était le cas, puisque il l'avait récupéré par ses grands-parents toutes les vallées de Taiohae. Et se concentrait en lui donc le mana de Moana et Titi Hakaiki plus celui de Puakakahu,
ses grands-parents maternels et paternels, et celui de son père Timau Teii et celui de sa mère Putahai'i.
Greg Denning continue, les autres personnes partageaient ce pouvoir dans la mesure de leurs liens sociaux, temporaires ou permanents, à la jonction des lignages généalogiques, c'est-à-dire selon leurs liens familiaux. L'étalage des richesses, les prouesses physiques, le courage propre au chef étaient des atouts secondaires dont il pouvait se passer. Il n'avait pas besoin d'être riche, il n'avait pas besoin de posséder quoi que ce soit, il n'avait pas besoin d'être fort physiquement, puisque seule son hérédité suffisait à le faire reconnaître comme chef. Oh, Voyons maintenant comment, autour du chef Hakaiki, la communauté s'organisait. La société traditionnelle marquisienne était inégalitaire de droit, selon qu'on appartenait à la classe tapu ou à la classe non tapu. La classe tapu comportait elle-même plusieurs catégories. Il y avait d'abord la classe tapu supérieure. Elle comprend le chef, le Hakaiki et à ses côtés certains membres proches de sa famille. En qualité de détenteur de la mémoire du clan, de ses légendes et de ses chants, des noms des divinités et des lignées généalogiques, les bardes ou chantres, appelés Tuhuka O'oko, étaient toujours Taapu. Étaient aussi Taapu les Taua, grands prêtres inspirés et prophètes, qui vivaient en ermite, partageant avec les dieux les secrets de la guerre et les sacrifices rituels. Les enfants premiers-nés de chefs de sexe féminin, qui n'étaient pas Hakaiki, ou bien ceux dont les grands-parents ou un aïeul faisaient grand cas, étaient déclarés tapu à vie. Excepté les Hakaiki, certains membres proches de leur famille et la plupart des Taua, très peu des Nata étaient tapu en permanence. Il y avait ensuite la classe tapu générale, qui comprenait tous les hommes, à l'exception des Kaioi, ces jeunes adolescents, qui vivaient ensemble et animaient les fêtes Koika. À Nukuhiva, les hommes de la classe Kaioi étaient parfois appelés Okaoka, un mot employé de manière obscène qu'ils utilisent souvent dans leurs chants en public. En effet, il signifie introduire quelque chose dans un trou et on voit bien l'image que cela véhicule. En troisième lieu, il y avait la classe non tapu. Les membres de cette classe sont profanes, c'est-à-dire mei. Ils portent le nom de Kikinoa, Vainoa, Tupenoa, Maunoa, personnes au teint sombre. Y sont incluses toutes les femmes sans distinction, quel que soit par ailleurs le respect dont elles peuvent être entourées, puis viennent tous les hommes à leur service. Ce sont des domestiques, hommes et femmes d'ailleurs, qui sont employés à préparer les repas et à s'occuper des enfants, à surveiller les plantations. Leur exposition au soleil et aux intempéries, leur régime alimentaire différent, les a rendus physiquement distincts des hommes de la classe tapu, qui avaient la peau claire, étaient plus grands et remarquablement mieux charpentés. Peu de Kikino avaient femme ou mari, terre ou maison. Ils n'appartenaient pas à une maisonnée, ils en changeaient au gré des circonstances. Ça signifie aussi qu'ils n'étaient pas des esclaves. Font partie aussi de cette classe les Kaioi, qui utilisent les mêmes procédés que les femmes pour se clarifier la peau, quel que soit leur bien ou leur rang social. Ils sont les seuls à exécuter les chants profanes en public. En plus des domestiques mâles, des maris secondaires Pekiyo et des Kaioi, quelques hommes de meilleure famille préfèrent partager la table des femmes plutôt que de faire partie de la classe Tap. Certains vont jusqu'à s'enduire le corps d'huile de coco afin de participer à des cérémonies en l'honneur de certaines femmes. À l'exception des Kaioi, tous les hommes appartiennent à la classe tapu générale, même s'il existe à l'intérieur de celle-ci des subdivisions distinctes. Les Kikino et les personnes tapu forment deux groupes sociaux identifiables à tout moment. Dans l'accès aux ressources Enata, ils représentent les deux extrêmes d'une lignée. Et maintenant voyons comment, quand on ne fait pas partie de la classe tapu, on peut y accéder. Entre les deux catégories dont on vient de parler, les Kikino et les Tapu, il se trouve un grand nombre d'individus pour lesquels l'acquisition du Tapu est le seul moyen de jouir des privilèges de la classe Tapu. Certains devenaient Tapu après avoir tué un ennemi ou s'être distingués d'une manière extraordinaire. Ils avaient alors le droit de festoyer avec les hommes de la classe Tapu. D'autres pouvaient accéder temporairement au Tapu, leur conférant la faculté de s'associer à un groupe et d'occuper un rang reconnu dans la société. Ils formaient alors des hiyo, ou sociétés d'individus de même condition, qui consommaient ensemble des mets spécifiquement tapu à leur intention, ou des mets ordinaires rendus tapu pour eux à cette occasion. Les membres d'un même hiyo portaient des motifs de tatouage identiques. D'autres individus devenaient tapous lorsqu'ils se réunissaient pour exercer des fonctions spécifiques. De cette manière, les Taoua
et leurs assistants Ou et Moa,
chargés d'exécuter les victimes, formaient-ils un groupe tapou avec les Tuhuka Ooko lors des festins spécifiques. À Nukuhiva, une caste de vieillards appelés Matapuovo, face émaciée, visage brûlé, jouissait d'un tapou particulier leur permettant de se rassembler pour exercer des fonctions spéciales lors des célébrations ou pour partager des mets tapou à eux seuls réservés. À Tahuata, les Ihu Epo, littéralement né sale, né NEZ, guerriers dont le visage avait été entièrement tatoué, avaient constitué un groupe privé pour partager la prospérité de PTT, fils adoptif de Tainai, et futur IOTT. Après avoir vu le rôle social du chef, du Hakaiki, voyons maintenant son aspect symbolique et religieux. À la tête, ou plutôt au centre de la tribu, se tient la personne la plus tapou de toutes, le chef, le Hakaiki. La force de son pouvoir mana est la résultante de l'accumulation du mana de ses ancêtres et du sien propre. C'est au travers de lui que le tapou s'exprime, et nous allons voir comment, suivant le raisonnement de Greg Denning, les deux sont intimement liés. Au regard des Enata, le Hakaiki était l'authentique centre de leur société dans le temps et l'espace. Le temps présent, passé et futur relevait de la personne du chef. La lignée des divinités Etua, qui remontait aux origines du temps, aboutissait au chef. Le cycle des événements et des anniversaires dont le rythme marquait la vie sociale était centré sur la personne du chef. Le chef encore, en la personne de son fils premier-né, garantissait la pérennité de son peuple. L'espace se concevait comme une carte du tapu sur laquelle animaux, végétaux, montagnes et mers, la terre et tout ouvrage humain étaient orientés vers le chef ou les hommes en relation avec le chef. Il pouvait être pauvre. Sa vraie richesse consistait en sa faculté de faire appel à tout ce qui avait de la valeur. Il pouvait être faible. Sa force consistait qu'en fin de compte, chaque dispute prenait fin, chaque combat était remporté, chaque offrande sacrificielle était célébrée en son nom. Il pouvait être contesté et même renversé, mais en fin de compte, c'était uniquement sa personne qui était rejetée, non sa fonction, ni son rôle dans la société. Tel l'eau, l'air, la terre, le feu ou la mort, le statut tapu du Hakaiki faisait partie de ces réalités qu'on ne remet pas en question. Chers amis, nous voici arrivés au terme de cette émission, qui, je l'espère, aura permis à tous de mieux saisir le rôle central du Hakaiki des anciens temps. Ne manquez pas la prochaine émission, au cours de laquelle nous essaierons de saisir comment cette place centrale lui permettait de régir le tapu. A bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Rataro pour sa chanson Hakaiki René qui nous rappelle une certaine époque. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai o oaiho.